Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, radio de la Fédération Anarchiste. Et ce soir, nous allons vous parler pour cette émission de Jeudi Noir d'un livre de Quinn Slobodian publié aux éditions du Seuil récemment qui s'appelle Les Globalistes, sous-titre Une histoire intellectuelle du néolibéralisme. Alors la traduction date de 2022, pour l'édition originale, Michel, tu sais si... le texte 2018 visiblement. Donc c'est un texte assez récent. Alors c'est une histoire intellectuelle donc du néolibéralisme avec derrière l'idée d'une présentation. D'une idée, d'un programme, finalement, de quoi de, d'impérialisme politique mondial, supra-étatique, dédié au marché et à un capitalisme, non régulé, dérégulé, quelque chose comme ça.
Alors non.
Non, alors.
Pas tout à fait. C'est plus compliqué.
De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est une espèce d'histoire du XXe siècle.
C'est un travail d'historien.
C'est un travail d'historien.
Un Canadien, tu dis, historien canadien.
Qui s'est spécialisé dans l'histoire économique. Ouais. Alors c'est assez rare et c'est assez intéressant parce que souvent c'est plutôt des anthropologues ou des économistes ou des philosophes qui s'attaquent à ce genre de trucs. Et là, c'est d'un point de vue historique. Et c'est une espèce d'histoire du néolibéralisme, d'un point de vue intellectuel, au XXe siècle. Et ça va se concentrer, en gros, le bouquin s'attaque à la période 1920-1990 à peu près. L'auteur, Quinn Slobodian, a priori, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine, soixantaine d'années max, je pense, parce que c'est la génération Seattle. Mmh. Il dit que son livre, c'est une espèce d'hommage à ses amis qui sont allés à Seattle alors qu'il n'y est pas allé. Et justement, il va en quelque sorte essayer, dans son bouquin, de définir ce que c'est que le néolibéralisme. Parce que ça fait partie de ces termes un peu fourre-tout, qu'on emploie très facilement, sans trop se demander ou sans trop savoir ce qui peut distinguer un libéral d'un néolibéral.
C'est le thème, il a émergé effectivement, comme tu dis, avec l'altermondialisme en fait, comme une espèce de d'approche globale, mais pas toujours très claire, effectivement.
Et donc aujourd'hui, suivant la chapelle à laquelle on appartient, on parlera des capitalistes, on parlera des libéraux, on parlera des néolibéraux. Si on est un tout petit peu plus, un tout petit peu plus précis ou pointu, on va parler des ordolibéraux, mais peut-être qu'on y reviendra pour les distinguer. Mais le fait est que
Il y a des écoles aussi.
Il y a des écoles. C'est-à-dire qu'on a tendance.
L'école de Chicago, l'école autrichienne. L'école allemande, l'école de Fribourg.
C'est ça. Ouais. L'ordre libéralisme, justement. Mmh. Et on a tendance, nous, en tant que gauchistes, ou qu'anarchistes, ou que je ne sais trop quoi en iste, mais de l'autre côté de la barrière, on a tendance à nier ces différences, à les mettre tous dans le même sac. Ça marche pas. C'est-à-dire que si on veut bien comprendre qui ils sont et ce qu'ils défendent comme idée, il faut parfois préciser un petit peu les choses. Et c'est ce à quoi le livre va s'attacher. Et donc, lui, il va partir de cette espèce de lieu commun selon lequel l'idéologie du libre-marché aurait conquis le monde.
Alors attends, juste te poser une petite question. Dis-moi. Juste d'abord, sur le sous-titre du livre en anglais, c'est sous-titré « La fin de l'Empire et la naissance du néolibéralisme ». Alors, il y a un moment...
Oui.
C'est un sens à ce titre-là. Est-ce que ça éclaire un peu aussi le projet ?
La fin de l'Empire, c'est la fin de l'Empire austro-hongrois.
Ok.
C'est-à-dire un espace où, économique et politique, finalement, où il y a quasiment plusieurs États qui sont en concurrence et qui vont malgré tout essayer d'établir une réglementation économique commune. Ça, c'est un truc qui sera...
La fameuse cacanie
de Robert Musil, l'Autriche-Hongrie, et ça va souvent revenir. C'est-à-dire que, pour lui, les néolibéraux, c'est des gens qui, en quelque sorte, sont dans une nostalgie de l'Empire qui permettait à la fois de maintenir des différences nationales et une unité économique. Sachant que ça va être un thème qui va revenir tout le temps dans leurs obsessions.
Donc il y a une nostalgie impériale.
Il y a une espèce de nostalgie impériale
politique clairement. Derrière ce projet-là.
Et ce qui fait que des néolibéraux peuvent parfois regarder avec une certaine tendresse l'Empire romain. ou l'Empire des Habsbourg. Et évidemment, dans le cas qui intéresse Slobodian, dans les globalistes, ça va être toute l'école qui va naître à la sortie de la Première Guerre mondiale, quand l'Empire austro-hongrois est démembré, et qu'il se retrouve dans une toute autre situation, avec des nations qui exercent un certain protectionnisme, qui sont plus liées dans un empire. Et donc tout va partir de Vienne,
des Autrichiens.
Des Autrichiens.
Donc, Schumpeter.
Non, il cite pas Schumpeter à ma connaissance.
Hayek, du coup.
Hayek après, mais surtout le point de départ, c'est comme je suis pas du tout germaniste, von Mises.
Von Mises. Ouais.
Von Mises, qui est un truc assez essentiel parce que en quelque sorte, alors moi je le voyais comme une espèce de libéral gentil. En fait, c'est une ordure.
Mais une ordure brillante.
Une ordure extrêmement brillante.
Intellectuellement, et ce qu'on a tendance à sous-estimer la plupart du temps.
C'est ça.
Un des théoriciens de la théorie de la des probabilités,
oui.
Notamment.
Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup écrit, qui était effectivement brillant, mais qui était aussi une ordure. C'est vrai que, comme tu dis, on a souvent tendance à sous-estimer que même les ordures peuvent être brillantes.
Et il est radicalement antidémocrate.
C'est ça. Ouais. Enfin, c'est plus compliqué. Et justement, ça va faire partie des trucs que va aborder le bouquin de Slobodian. C'est le rapport très complexe du néolibéralisme à la démocratie. Qui fait un peu écho, à mon sens, à ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec notre... Comment dire
avec l'actualité, avec l'actualité sociale.
Ouais, j'ai pas envie de citer le nom de l'enfant foiré là.
tu parlais du marché.
Et donc, lui va partir en fait de l'idéologie, enfin comment dire, des lieux communs qui circulent chez les intellectuels, dans la presse, avec l'idée que finalement l'idéologie du libre marché aurait totalement triomphé. Que les politiques nationales seraient sans aucun poids face aux forces de ce dit marché. Je crois que c'est Alan Greenspan qui dit on s'en fout de savoir qui sera le prochain président aux États-Unis parce que de toute façon c'est les marchés qui gouvernent. Et donc pour les gens qui sont d'accord avec ou qui aiment cette idée, c'est l'idée finalement d'un monde dans lequel les biens, les capitaux circuleraient sans entrave selon la logique de l'offre et de la demande. Pas les personnes. Non.
Les capitaux, les biens.
Ouais, les capitaux, les biens dans les personnes, non, surtout pas. Avec l'idée que c'est cette libre circulation qui créerait de la prospérité, des opportunités et tout. Et donc on a l'idée d'un néolibéralisme qui serait la conjugaison de marchés autorégulés associés à des États veilleurs de nuit, c'est-à-dire des États réduits à leur portion congrue.
Bah, qui assurent la sécurité des biens et des personnes.
C'est ça.
Et la propriété privée.
Exactement. Pas plus. Et avec l'idée aussi que, d'une certaine manière, le capitalisme de marché irait très très bien avec la démocratie. Avec l'idée parce qu'il y a des droits individuels. Et donc, qui permettent de créer des richesses, de créer de la valeur, etc., etc. Alors, ce que va rappeler Slobodian, c'est que les premiers néolibéraux, dont on a évoqué un petit peu, dont on a évoqué certains noms, ne croyaient pas à l'autorégulation des marchés, ne croyaient pas que le capitalisme soit solidaire de la démocratie, ils voyaient plutôt la démocratie comme une menace pour le capitalisme.
C'est une menace politique.
C'est une menace politique.
L'interventionnisme politique.
C'est ça. Ils ne croyaient pas non plus, et c'est pour ça qu'en plus qu'ils n'aiment pas la démocratie, à la rationalité économique individuelle. C'est-à-dire que, très très souvent, il y a cette image, on dit, les économistes du néolibéralisme, ils sont complètement irréalistes, ils croient que chaque individu fait ses comptes avant de choisir. Ben non, en fait. Ils sont pas idiots. Ils savent que la plupart des gens ne font pas leurs comptes avant de choisir.
N'ont pas les informations.
Et pour eux, c'est un problème. Ça dépend. Pour Hayek, ça peut être quelque chose de bien. On va y revenir là-dessus, parce que là aussi, il y a tout un tas de trucs qui sont qu'on se représente, dont on a une idée assez floue en réalité. Dans l'idée que se font les néolibéraux du marché, il y a beaucoup de faux-semblants ou du moins d'erreurs qu'on a commis à gauche, ou du côté des anards, sur la façon dont les libéraux eux-mêmes envisageaient le marché. On s'en parlait même des néolibéraux. Et aussi, d'autre part, les premiers néolibéraux ne croient pas du tout à la nécessité de faire disparaître l'État et les frontières. Alors, on va voir pourquoi. C'est une question un peu complexe. Je ne sais pas, ça va être un peu le bazar ce soir, je suis désolé. Mais je vais peut-être avancer pour expliquer ça. C'est qu'ils vont se reposer tout le temps, et je pense que c'est fondamental dans le bouquin, sur une distinction qui a été faite par Carl Schmitt, le juriste nazi, qui était aussi très proche des libéraux allemands. Si au début de la République de Weimar, les nazis lui reprochaient après, en lui ont traité d'hypocrite. Mais c'est une figure du libéralisme autoritaire aussi, Schmitt. Mais bon, pas que, quoi. Enfin, c'est compliqué. Mais je vois qu'il fait des grimaces, Jean-Mathias. C'est une distinction, alors, entre imperium, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'État, des États-nations et de la politique, et le dominium, ça c'est un terme latin, hein, qui renvoie plutôt à la répartition des biens. Et l'idée, c'est que jusqu'au XIXe siècle, le pouvoir politique et le pouvoir économique étaient situés dans les mêmes lieux. C'est-à-dire les gens qui dominaient un pays étaient les propriétaires de ce pays. Et avec le XIXe siècle et le développement du capitalisme, on commence à voir un décalage qui va s'opérer entre les deux. Et ce décalage, entre le politique et l'économique.
D'une certaine manière, politique au sens de régalien, finalement.
Ouais, au sens de régalien.
C'est ça, la police, ça. Justice, armée.
C'est ça.
Ce qui sont les missions traditionnelles, le noyau dur, en quelque sorte, de l'État. Et puis, l'État comme arbitre des richesses, des biens, et la distribution des biens, et des valeurs. Et
justement, mais si tu sépares les deux.
C'est ça.
Si tu sépares l'économique et le politique, d'une certaine manière, il y a toute une partie de l'économique qui va échapper au politique.
C'est le principe du marché, justement.
C'est ça, c'est le principe du marché. Et sauf qu'ils ne veulent pas faire forcément disparaître cette distinction, ni même abolir l'une pour l'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas non plus de faire disparaître complètement le politique, c'est-à-dire des États-nations.
Ah, c'est pas des anarchistes, quoi.
C'est pas des anarchistes, c'est ça. Mais ils veulent aussi qu'il y ait des différentiels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des frontières, tu peux faire jouer la concurrence. S'il n'y a pas de frontières, tu n'as pas de concurrence.
Ouais, c'est vrai,
et c'est la merde.
C'est vrai.
Et donc, si tu es un bon néolibéral, tu as besoin de frontières.
C'est vrai.
Et tu as besoin que l'économique et le politique ne se recoupent pas. Ce qui fait qu'un pays... alors, ça va avoir des conséquences, par exemple, sur la conception du colonialisme. C'est un des intérêts du bouquin. C'est qu'il remet... il intègre la question postcoloniale dans la question du néolibéralisme. Mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard, sur le surgissement des nationalités, d'états-nations qui demandent finalement des politiques redistributives.
Et est-ce que du coup, parce que tu parlais tout à l'heure, c'est juste pour qu'on classe un petit peu, tu disais qu'effectivement, on a tendance à mettre tout dans le même sac, en parlant de néolibéralisme, on parle parfois de l'école de Chicago, Milton Friedman, le capital humain,
Slobodian, par exemple, ce qu'il va décrire, l'école qui est centrée autour de Hayek et de von Mises, elle est opposée à Hayek, à plein de niveaux.
D'accord. Et donc, c'est l'école de Genève, tu parlais.
C'est l'école de Genève, alors je reviendrai après.
D'accord. Et donc, pour lui, c'est ça, effectivement, le cœur idéologique. Alors, c'est ni l'ordolibéralisme allemand, école de Fribourg, ni l'école de Chicago des années 50 de Milton Friedman, auteur du Capital Humain, ni l'école autrichienne von Mises Hayek. C'est von Mises contre Hayek.
Non, la base, c'est von Mises. C'est l'école autrichienne. Tout ça naît à Vienne.
Bon, après, alors là, du coup, effectivement, ça, c'est original parce que la plupart du temps, on ne fait pas de différence particulière entre von Mises et Hayek, en fait, ils sont...
Pour le coup, lui, pareil, il les met dans la même lignée.
Ah d'accord, ok.
Lui, pour lui, c'est la même...
Mais pourquoi il parle de Genève, alors, du coup?
Parce que von Mises a bossé à Genève, et qu'en fait, c'est né pour lui.
D'accord.
C'est né à Vienne, et ça s'est développé à Genève.
La synthèse se fait à Genève, d'accord. Bon, est-ce qu'on peut peut-être se faire une première pause musicale? Je précise, parce que il faut le faire, que le premier morceau qu'on a entendu au début est un morceau des Neo Boys qui s'appelle Rich Man's Dream, d'un groupe de Portland, un morceau des années 80, et on va écouter tout de suite Pony Bravo, El Politico Neoliberal.
Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Robar.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Jeudi Noir pour sa deuxième partie, toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. On est toujours aujourd'hui sur une présentation par Michel de ce livre de Quinn Slobodian qui s'appelle Les Globalistes, une histoire intellectuelle du néolibéralisme, édité aux éditions du Seuil l'année dernière. C'est un livre qui date de 2018. Alors, tu dis, il y a un historien canadien qui remet sur le métier de manière assez pointue le projet intellectuel qui est celui du néolibéralisme, dont on parle très souvent de manière assez grossière et générale, alors qu'il recouvre tout un tas d'options, d'idées, de synthèses intellectuelles différentes. Et là, en l'occurrence, tu nous disais donc juste avant la pause que ce qui est cette pause avec ce morceau de Pony Bravo, que ce qui l'intéresse, c'est une synthèse particulière, alors qui naît d'abord à Vienne après la chute de l'Empire austro-hongrois et qu'on appelle l'école de Genève et qui va en fait proposer finalement un modèle de quoi ? Un modèle de marché régulé par des États qui serait préservé au maximum de toute souveraineté populaire ou quelque chose de cet ordre-là. Hein ? Qui dit État, donc c'est ça l'idée. Oui. Donc l'État dit frontière, qui dit frontière dit concurrence, donc ça en prend. Oui. Qui dit État régalien dit système de loi, donc garantie légale des biens et des personnes, et avec la contrainte et la violence légitime qui va avec, c'est-à-dire voilà la police, les tribunaux, l'armée. Mais en même temps, il faut faire en sorte que ces États soient le moins interventionnistes possible dans les activités économiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les préserve de toute forme de volonté populaire intempestive, irrationnelle et qui fausserait justement le fonctionnement du marché. Et donc ça veut dire que le marché peut pas vraiment fonctionner tout seul, il faut qu'il fonctionne au maximum tout seul, mais sous tutelle légale en quelque sorte, et que le rôle des États, donc potentiellement autoritaires, c'est ça. On s'approche du puits là.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire le marché n'est pas naturel pour eux.
Ouais.
Comme chez les ordres libéraux, il a besoin d'institutions et il faut des institutions. Le truc, c'est à quel niveau est-ce qu'on place ces institutions. Et alors, ça, il y a plein de remarques. C'est un livre qui est très riche. Hein. Ouais. Moi, je vous le recommande si cette histoire-là vous intéresse. C'est assez pointu, mais c'est relativement clair. Comme c'est un historien. Il y a plein de remarques qui sont, par exemple, dans le premier chapitre sur Von Mises, il décrit Vienne. Et il décrit les bâtiments dans lesquels bossait Von Mises et le rapport à l'économie et à la politique. Et donc, c'est un bouquin qui est assez, comment dire, il y a de la matière. C'est pas un truc complètement abstrait. Qui peut vous perdre. Et ça, je trouve que c'est pas mal pour des lecteurs qui seraient pas nécessairement des gens qui s'intéressent beaucoup, des lectrices qui s'intéressent beaucoup à l'économie en tant que telle. Parce que c'est un peu plus vaste et c'est assez lisible.
Et contrairement à ce qu'on dit souvent, ils voient pas du tout le néolibéralisme comme une espèce d'apologie de la main invisible.
Pas du tout.
Il faut des lois.
Il faut des lois,
donc la main, et voilà.
Alors là-dessus, il y a un obstacle, il mentionne un obstacle à la compréhension des néolibéraux, c'est le recours excessif aux théories de Polanyi.
La
grande transformation, qui a été publiée en 1944. Et alors Polanyi, c'est un économiste déjà ? Ou c'est un sociologue,
anthropologue
c'est
ouais.
ça. C'est quelqu'un qui pense que... en quelque sorte, le fascisme, que tout un tas de maladies politiques ont été produites par ce qu'il a appelé le désencastrement de l'économie. C'est-à-dire que pour lui, dans une société non capitaliste, tout ce qui va être de l'ordre de l'échange appartient à la sphère plus vaste de la vie commune. On ne fait pas qu'échanger des biens pour les valoriser. Quand on échange des choses, il y a tout un tas de trucs qui vont relever aussi de la sociabilité, des relations humaines, et qui font la société. Et sauf, qu'est-ce qui se passe si on sort l'économie de tout ça ?
Et qu'on la rend autonome, en quelque sorte.
Autonome.
C'est ça, l'une des thèses de Polanyi. Et donc, c'est pas vraiment la critique de la marchandise comme chez Marx, mais c'est une approche plus anthropologique. Effectivement, on sort, en fait, on dérégule, on met plus de limites anthropologiques et sociales aux échanges de marchandises. Il y a quelque chose de cet endroit-là, ouais.
Et donc, tout devient une valeur d'échange. Y compris des choses qui ne sont pas des valeurs d'échange.
Le marché devient seul créateur de valeur.
C'est ça. Alors que, par exemple, je sais pas, quand vous possédez un terrain, c'est pas simplement quelque chose qui, quand vous exploitez un terrain, plutôt, dans une des sociétés précapitalistes, c'est pas quelque chose qui va juste vous permettre, de vous enrichir. c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de tisser des liens sociaux, qui va vous permettre de voir vos voisins et tout un tas de choses qui font que votre terrain, c'est pas simplement un bien échangeable. Il fait partie de votre vie d'une certaine manière et de la vie de la collectivité. Et nous, enfin en France, beaucoup, Polanyi c'est quelqu'un de très célèbre, et vous avez beaucoup de gens à gauche qui vont dire, encore aujourd'hui, le problème du capitalisme, c'est que l'économie a justement été sortie, en quelque sorte, de la sphère de la vie commune. Et ce que remarque Slobodian là-dessus, c'est qu'en fait, les néolibéraux partagent tout à fait ce constat. En partie.
C'est-à-dire qu'ils voient bien... Il faut de l'institution, il faut de la régulation, il faut du cadre, il faut du cadre légal pour que le marché fonctionne.
C'est ça.
Ils veulent pas d'un marché, justement, entièrement libre et dérégulé. C'est
pas du tout ça. Et c'est ça qui va faire qu'on les qualifie de néo-libéraux et pas de libéraux tout court. Parce que après la crise de 29 en particulier, mais même avant... Ils sont très conscients que le capitalisme ne peut pas fonctionner sous sa forme ancienne. Et donc, ils vont théoriser, en quelque sorte, des conditions plus larges nécessaires à sa survie. Ils pensent que le capitalisme, le marché laissé à lui-même, et là-dessus, ils sont d'accord avec les ordo-libéraux allemands de Fribourg, ils pensent que le marché livré à lui-même s'auto-détruit. Et donc, pour le sauver, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Non pas forcément s'intéresser à l'économie, mais revoir les fonctions de l'État, revoir la législation internationale, voire les créer. Parce qu'au niveau des États-nations, si on laisse le marché tout seul, il s'effondre et on perd finalement le capitalisme. Donc il y a l'idée que le marché c'est quelque chose d'artificiel, de fragile, qu'il faut sauvegarder à partir justement d'institutions qui vont être plus vastes que celles des États-Nations.
Ouais, supra-étatiques. Ouais, donc en fait, c'est ça, ils sont anti-souverainistes et ils sont aussi anti-nationalistes.
Aussi.
Ils sont supranationalistes.
C'est ça.
Et ils bah, c'est, pas, oui, c'est un modèle impérial.
C'est un modèle impérial. Ouais. C'est ça. Donc comme ça, il y a un néolibéral qui écrit en 2006 que les néolibéraux ont précisé les conditions extra-économiques d'un système économique libre.
Oui, c'est pas faux. Et donc effectivement, dans une logique d'institution, il faut instituer le marché, c'est-à-dire il faut créer des règles artificielles. Et ensuite, après, il va fonctionner naturellement.
Mais si plus ou moins.
Mais si on a mis des règles,
il faudra toujours y remettre un coup de bâton. Souvent, il fera. Je pense qu'ils ont peut-être retenu le truc des ordolibéraux, qui disait que la concurrence libre et non faussée livrée elle-même produit des monopoles et qu'il faut la casser régulièrement. Mais
moi, ce que je trouve effectivement intéressant dans ce type d'approche-là, c'est que en fait, ça insiste sur les points forts du néolibéralisme, et il y en a. Et en fait, pour moi, il y en a au moins deux. Il y a celui dont tu viens de parler, qui est effectivement le fait de penser une espèce d'efficacité économique, mais de la penser vraiment, c'est-à-dire de se donner des moyens, y compris institutionnels et les juridiques, je dirais, pour que ça fonctionne. Et le deuxième, alors ça, je ne sais pas s'il en parle peut-être, mais c'est un point fort aussi qu'on trouve chez les ordo-libéraux notamment, c'est qu'en fait, ce n'est pas un truc dénué non plus de toute anthropologie, c'est de toute conception de la nature humaine. Et c'est très très clair chez des gens comme Röpke ou des gens comme ça dans l'école de Fribourg.
Il le cite.
Voilà, c'est l'idée qu'au fond, en fait, les gens, voilà, au sens large, en fait, ce qui les intéresse, c'est surtout d'avoir une vie de famille pépère et de ne pas s'emmerder avec la politique. En quoi y a une vraie thèse qui peut se discuter, qui n'est pas aberrante.
Et donc d'ailleurs, Poutine et Xi Jinping sont tout à fait d'accord.
Absolument. De ce point de vue-là, il n'y a pas de. Alors, il faut voir parce que en fait, ils leur demandent quand même beaucoup les meetings, tu vois, le militarisme, voilà. Puis ils les envoient quand même un peu à la guerre.
Maintenant.
Donc voilà.
Mais
en tout cas, mais du coup, c'est des points forts du libéralisme. Et en fait, si effectivement on veut critiquer le libéralisme ou si on veut montrer les limites de ça. Il faut aussi avoir conscience de ces ressources-là. Et alors, c'est bon, là, après, sur l'efficience de ça. Et du coup, par contre, effectivement, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est la manière dont il fait ressortir le projet politique qui est derrière, qui est un projet effectivement impérial à l'échelle monde, du coup.
Oui.
Si possible.
C'est ça.
À l'échelle monde.
Alors que les ordo-libéraux pensent à l'échelle de la nation.
Ouais, ils sont plus. Voilà, c'est plus. Ouais.
Et c'est la même. Mais c'est pour ça qu'il va les appeler.
Alors,
les
fédérations. En même temps, ils sont pas hostiles à des fédérations de nations. C'est pas. T'es pas si loin que ça du côté impérial, en fait.
Oui.
Tu peux.
Aussi.
Ouais. Et donc les figures de ça, donc tu dis éventuellement von Mises comme penseur de la règle, de la loi, je dirais de ce point de vue-là, d'une espèce de loi efficace. Hein, il y a quelque chose de cet ordre comme ça, avec notamment ses recherches sur la probabilité.
Hein, et puis son opposition virulente aux syndicats. Au début du bouquin, Slobodian rappelle un peu ce qui se passe à Vienne en 1927 où t'as des syndicats très très forts, un parti social-démocrate très fort aussi. T'as, comment dire, à un moment là, le gouvernement lâche la bride à l'armée. Et t'as des centaines de morts. Et Von Mises est tout à fait d'accord. Ouais. Ça ne lui pose aucun problème.
Oui, c'est des gens qui pensent que tout ce qui est intervention, soit de syndicats, soit de partis politiques, soit de l'État, c'est de la perturbation.
Exactement.
Parce que en fait, tu imposes de la valeur qui n'en est pas, puisque c'est une valeur particulière de tel groupe, de telle communauté, de telle coalition. Mmh. Et en fait, tu viens troubler effectivement la loi de l'offre et de la demande, parce que c'est quand même ça la base.
Aussi, oui.
Le fonctionnement du naturel entre guillemets du marché, qui a besoin d'un cadre artificiel, mais son fonctionnement naturel, c'est quand même celui-là. C'est ça qui va te déterminer justement. Prix, c'est ça qui va déterminer la bonne distribution des biens par rapport à la demande. Et donc effectivement tout ce qui est intervention politique, syndicale, de parti ou autre est à exclure, fût-ce par la force.
Complètement. Et alors lui, tu me disais des figures, un des traits de son livre, il dit, c'est que souvent on surestime en fait Friedman et l'école de Chicago.
Ah oui, qui sont
américains,
un deuxième temps,
qui sont un deuxième temps, qui eux ont une, pense qu'on peut mathématiser l'économie, qu'on peut tout calculer, qu'on doit calculer.
Alors de quel point de vue les surestiment? Parce que par exemple en Amérique du Sud, ils ont eu quand même la main assez lourde, et pour le coup ils ont eu champ libre. Hein,
c'est ça. Parce que c'est eux qui conseillent Pinochet, Chicago Boys, comme on les appelait à l'époque, c'était des étudiants de Friedman, hein,
qui ont été envoyés au Chili après le coup d'État de Pinochet, Argentine aussi, au Brésil, on les retrouve aussi.
Et lui, parce que lui pense que le cœur idéologique du néolibéralisme, c'est l'Europe.
D'accord.
Et l'Europe de la première moitié du XXe siècle.
Ok.
Et on a eu tendance à l'oublier, et il dit, on surestime les USA, et parce que les économistes et politistes américains, finalement, je vais peut-être faire un mauvais jeu de mots, ils ont tendance à ignorer le monde dans leur pensée, parce qu'ils se prennent pour le monde. Alors que les économistes et politistes européens, finalement, étaient déjà dans une situation un petit peu inféodée et dans un univers politique fragmenté. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de penser l'Europe dans le monde. Et son idée, c'est que c'est pour ça qu'ils ont tout de suite, en quelque sorte, tapé au niveau mondial dans leur réflexion économique. Très très tôt, ils se sont dit comment est-ce qu'on pense la circulation des biens au niveau mondial ? Du fait de leur position dans l'histoire et historique et géographique.
Sachant que l'originalité de la chose, de cette approche-là aussi, si je me trompe pas, c'est qu'en fait, des gens comme Hayek insistent en permanence sur l'idée que tu peux pas modéliser de manière complète le fonctionnement d'un marché.
Ça, c'est super important.
C'est hyper important. Et c'est pour ça qu'en fait, tu ne peux pas avoir d'économie planifiée.
Non.
Et donc, en fait, leur ennemi, c'est non seulement toute intervention intempestive, mais toute forme de planification économique.
Oui.
Et, en fait, ils essayent de comprendre le fonctionnement d'un marché efficace qui ne soit pas planifiable. Donc il faut des règles, mais qui sont des règles qui sont pas en fait des règles qui vont imposer un fonctionnement comme si tu avais un mécanisme à construire. Ce sont des règles qui vont en quelque sorte susciter, encourager, cadrer, limiter, décider des grandes masses, esquisser des tendances. C'est des règles cadres en quelque sorte, mais qui sont pas des règles directement qui produiraient directement des effets. Contrairement à ce que voudraient les économistes. Tu parlais tout à l'heure de la manière dont ils renvoyaient Keynes et puis l'Union soviétique.
Voir Friedman.
Voir Friedman, parce qu'effectivement, c'est des gens qui, du coup, sont beaucoup trop interventionnistes et qui se racontent des histoires. Parce que c'est des gens qui pensent à tort qu'on peut modéliser le marché et du coup planifier de manière précise les actions.
Et Hayek part de ça.
C'est ça.
Il part de la statistique.
Ce qui au passage est une analyse très 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 forte et à laquelle il faut pouvoir répondre ou dont il faut tenir compte quand on s'intéresse à ces questions-là parce que c'est pas forcément faux en fait comme constat. Voilà.
Mais après ça s'appuie aussi sur une vision quasiment théologique du marché.
Parce que
Hayek va carrément dire ordolibéralisme, par exemple. Le terme ordo vient de Saint-Augustin.
Oui.
Et c'est l'idée.
C'est une anthropologie chrétienne, hein, je veux dire.
Et ça renvoie derrière, au fait qu'on va être, en quelque sorte, ébahi et stupéfié par un ordre qui nous dépasse tellement qu'on croit que c'est du désordre.
Oui.
La création tout entière est ineffable.
Les voies du marché sont impénétrables.
C'est ça.
Ouais.
Ça a tout un tas d'effets, des effets rigolos, entre guillemets.
Ouais.
C'est-à-dire que un politique peut tout à fait dire, mais on ne pouvait pas prévoir.
Il y a un moment, comment qui aurait pu prévoir?
Qui aurait pu prévoir, c'est ça.
T'as un côté, effectivement, les voies du marché sont impénétrables et il faut pas chercher à comprendre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, faut pas chercher à comprendre au sens où faut pas chercher à comprendre comme si tu voulais contrôler, en quelque sorte.
C'est ça.
Il y a pas de, ouais.
Par contre, il y a d'autres choses que tu peux plus ou moins contrôler, en particulier, comment dire?
Tu peux limiter. Les trucs intempestifs.
Mais le truc, c'est que Hayek, de ce point de vue-là.
C'est une idée de la loi et de la règle qui est très forte aussi, ça.
Oui, aussi. C'est pas des idiots.
Non.
Si c'était des idiots, on aurait gagné depuis longtemps. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut jamais oublier. Mais à cet égard, c'est pour ça que Hayek, par exemple, va beaucoup réfléchir, finalement, plus qu'à l'économie dure, à des choses qui sont directement, qui relèvent de la philosophie politique.
Et du droit.
Et donc, ce que dit Slobodian, c'est qu'il recherche systématiquement, finalement, une solution juridique et institutionnelle aux effets perturbateurs de la démocratie sur les processus du marché. C'est son idée, c'est ça. Mais à l'échelle mondiale, il relève d'un cran. Avec l'idée que si on fait passer, finalement, au niveau d'institutions internationales, la réglementation, on va l'immuniser contre les troubles populaires nationaux. C'est pour ça aussi que, par exemple, pas d'État, c'est une très mauvaise solution, c'est pas des anarchistes, mais un État mondial, c'est une solution horrible pour eux. Parce que ce serait remettre la politique au cœur du jeu.
Oui, parce que de toute façon, là, ça suppose une planification mondiale.
C'est ça.
Voilà, et donc tu retombes sur les mêmes problèmes.
Donc il faut garder des États.
Il faut une concurrence même entre États.
Et il faut une concurrence entre États, et cette concurrence elle-même n'étant pas naturelle et risquant de déboucher sur...
Il faut l'entretenir.
Il faut l'entretenir et il faut éviter qu'elle s'effondre et qu'un État prenne toute la place.
Il faut l'encourager. Oui, ils sont pas non plus pour le monopole, ça c'est clair.
Ah ben non, le monopole, pour eux, c'est la mort de la concurrence. Donc, c'est plutôt des gens qui vont briser les monopoles. Et ça peut se voir concrètement, par exemple, dans l'importance qu'a pu avoir la Commission de la concurrence dans l'Union européenne. Pendant très très longtemps.
La Commission européenne, elle est construite sur des bases néolibérales, ça c'est clair.
Clairement. Et voire néolibérale à la Hayek. Et ça, il le dit souvent, c'est que certains néolibéraux ont cru atteindre en quelque sorte le Graal avec le traité de Rome et la construction de l'Europe. Avec justement des États qui ont des règles différentes, mais qui se rejoignent à un autre niveau, qui lui est inattaquable au niveau électoral. Et là, je pense qu'actuellement, on a une assez belle illustration de ce genre de raisonnement,
c'est,
en fait.
C'est pas fou, hein.
C'est-à-dire qu'il faut que certains niveaux de la décision ne soient plus, finalement,
ne dépendent plus de la souveraineté
de la populaire.
Ouais. Oui, c'est une nécessité.
C'est une nécessité. Ouais. Parce qu'autrement, ça va donner des gens qui réclament la retraite à 50 ans, tu vois, c'est pas possible.
C'est ça.
Par exemple.
On se fait peut-être une nouvelle pause musicale avant de s'intéresser à la suite. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième partie d'émission, consacrée ce soir au livre de Quinn Slobodian qui s'appelle Les Globalistes, une histoire intellectuelle du néolibéralisme, publié aux éditions du Seuil l'année dernière. C'est un livre qui date, le texte original date de 2018, donc c'est un texte relativement récent, et c'est une grande synthèse historique de l'histoire du néolibéralisme qui nous trace une espèce de compréhension au milieu de ce maquis d'écoles et d'auteurs et de concepts qu'on a tendance à caricaturer et à regrouper un peu vite dans une espèce de même sac, alors qu'en fait il y avait des gens tout à fait brillants et tout à fait cohérents dans ce malheureusement pour nous dans ce courant. Et donc on parlait juste avant la pause là de l'école de Genève qui est à laquelle il consacre en fait le cœur de ses analyses, hein, tu nous disais. Et un des avantages de l'approche historique qu'il restitue, c'est de nous proposer finalement une autre lecture du 20e siècle, puisque tu dis que c'est un courant en fait qui situe lui entre les années 20 après la Première Guerre mondiale et jusqu'aux années 90 en gros, et qui permet finalement de comprendre, de redécouper, de repériodiser en fait l'histoire économique et sociale et politique du coup du 20e siècle de manière complètement différente de ce qu'on fait habituellement. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus sur ouais. Du coup ce que ça produit comme effet
périodisation. Ouais, alors c'est intéressant parce qu'il dit voilà, pour le 20e siècle vu du point de vue d'un néolibéral, ça ne s'organise pas forcément de la même façon que nous on l'imagine. Et quelles sont les trois, en quelque sorte, les trois ruptures qui vont les faire réfléchir et qui vont les motiver à essayer d'imposer leurs idéaux politiques? C'est, première rupture, ça va être la fin de la Première Guerre mondiale qui débouche sur, finalement, des échanges qui sont empêchés par les anciens conflits entre les nations et donc tout un tas de protectionnismes qui se mettent en place. Là, vous avez un Anglais qui représente ça avec une espèce de maquette avec des murs et il parcourt un petit peu l'Europe avec ces maquettes où on voit tous les pays qui sont séparés par des murs et c'est des taxes douanières.
Et en fait, c'est le retour de l'État politique,
qui, du fait de la guerre, a repris la main sur l'économie parce qu'il y avait une économie de guerre qui était centralisée et planifiée par l'État. D'autant que la guerre met fin aussi à tout ce qui restait d'empire en Europe. Et donc là aussi.
Et ailleurs, puisque l'Empire ottoman.
Oui, c'est ça. L'Empire ottoman se casse la figure. Et donc il y a tout un tas d'empires qui se cassent la figure en Europe. Ce qui laisse la place au suffrage universel. Et ça les embête aussi. Parce qu'il y a de plus en plus de suffrage. Ils s'aperçoivent qu'il y aura de plus en plus de démocratie.
Et du coup, et par contre, l'Empire anglais ou l'Empire français, ils sont pas pensés comme des empires.
Plus tard.
D'accord, ok.
D'une certaine manière. Quand ils s'effondrent. Mais après, ils peuvent y voir des. Parce que l'un de leurs problèmes, c'est le problème de l'interdépendance et de l'autonomie. C'est-à-dire, chaque État peut croire qu'il est autonome et donc se couper du reste du monde et ne plus participer au jeu économique. Simplement après, qu'est-ce qui se passe quand finalement t'es plus qu'un État, t'es un empire? Faut voir dans quelle mesure est-ce que tu continues jouer avec les autres.
Enfin, c'est quand même une lecture de la fin de la Première Guerre mondiale du point de vue des vaincus, cette affaire.
Oui, bah c'est
ici parce que ils sont autrichiens, mais parce que enfin tu vois les l'Empire français, l'Empire anglais, alors
ils existent toujours.
Ils ont morflé, d'accord, mais ils sont saignés à blanc, mais ils existent toujours quand même.
Ils sont puissants. Ouais. Mais ça va venir plus tard. Deuxième grand événement qui va marquer les libéraux, c'est la Grande Dépression de 1929. Et de ce point de vue-là, des gens comme Hayek vont interpréter la chose en se disant qu'on ne peut pas réparer l'économie autrement que par des moyens politiques. Et ce qui implique une redéfinition de l'État, une refonte du droit.
Donc c'est la fin du laisser-faire, laisser-passer.
C'est ça.
Et ils actent ça.
Oui, ils actent ça. Mmh. Et il faut, et eux, ils disent, il faut un fédéralisme néolibéral. C'est à ce moment-là qu'il faut en quelque sorte faire passer la réglementation au niveau supranational. J'avais déjà réfléchi avec la SDN, avec laquelle ils étaient assez impliqués, la Société des Nations. Mais justement, 29, et ils vont réfléchir à l'internationalisation de tout ça très très tôt. Très très tôt, ça va être comment est-ce qu'on peut faire passer essayer de faire des. Ça, c'est le début, c'est essayer de faire des statistiques internationales, essayer de faire des règlements internationaux, tout un tas de trucs qui permettent justement de mettre l'économie à l'abri
des États.
Ça, c'est un des objectifs de la Société du Mont Pèlerin. Enfin,
c'est
Colloque Lippmann, puis ensuite Société du Mont Pèlerin, oui. Cette espèce d'organisation économique.
C'est ça, 1947, la Société du Mont Pèlerin, fondée par Hayek et quelques autres.
Et le troisième grand événement pour eux, la troisième rupture pour les néolibéraux, la guerre froide, ils s'en foutent. Parce que pour un Hayek.
Bah en fait, ils s'en foutent. Ce dont ils se foutent et ce dont ils essayent surtout de faire, c'est une histoire du XXe siècle sans la révolution russe, en fait.
Aussi, mais sans le keynésianisme.
Et sans le keynésianisme, d'accord.
Parce que pour eux, pour un Hayek, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre Eisenhower et Staline. Ça peut nous sembler délirant. Mais c'est comme ça qu'ils voient les choses, parce que dans les deux cas, on est
et la troisième du coup tu dis
et la troisième c'est pour eux ce qui les emmerde beaucoup, c'est la révolte des pays du Sud,
la décolonisation en fait.
Ça les embête beaucoup parce que on réintroduit de la démocratie et des États-nations dans le jeu mondial. Démocratie et États-nations qui vont commencer à vouloir faire de la redistribution. Et donc ça perturbe le jeu. Sans compter qu'il y en a pas mal dans l'eau qui n'hésitent pas à se dire que pour justement en quelque sorte tenir l'économie à l'abri de la politique, des solutions d'apartheid ne sont pas mauvaises, parce que justement on va limiter les tensions démocratiques en excluant toute une partie de la population du jeu démocratique, en particulier la partie de la population, tous les racisés qui sont exclus du jeu économique où on peut gagner. Et donc ça va être en quelque sorte les trois événements qui pour eux sont problématiques et exigent de repenser l'économie au niveau mondial, parce que ces trois événements qui aussi correspondent à une expansion de la démocratisation dans le monde. Donc à chaque fois ils voient la démocratie, la démocratisation comme un obstacle ou comme une source de danger pour le bon déroulement de l'économie.
Mais c'est intéressant.
C'est plutôt intéressant parce que de ce point de vue là très très souvent quand on... Ça, c'est un truc qu'on voit parfois en philo. C'est quand on comprend pas du tout le raisonnement de quelqu'un, avant de se dire qu'il est idiot, il faut se demander s'il ne raisonne pas sur des bases totalement différentes des nôtres. Et les néolibéraux peuvent nous sembler irrationnels. Mais avec ce bouquin, on comprend que, d'une certaine manière, il y a un cadre. Et que ce cadre, il faut aussi lutter contre, en quelque sorte. Enfin, il faut le comprendre avant de lutter contre.
C'est une espèce de sacralisation de l'efficacité économique des marchés.
Oui.
Il y a un côté un peu comme ça.
Il faut la mettre à l'abri.
Parce que il faut la mettre à l'abri.
Parce qu'elle est fragile. Et ça, ils en sont. Ils en sont. Ils en sont. Ils sont. Il dit la tonalité des discours néolibéraux. C'est pas l'orgueil et c'est pas le sentiment de victoire. C'est une anxiété. L'anxiété que les marchés se cassent la gueule. Parce qu'ils sont pas assez protégés.
Oui, et que du coup, effectivement, que en fait, la politique, c'est le mal, en fait.
C'est ça. Mais il faut de la politique.
Il faut de la politique
pour contrer ce mal.
Oui, c'est ça.
Parce que comme tu peux pas avoir une représentation adéquate et complète du système économique mondial, la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est introduire des correctifs politiques au niveau international qui peuvent te permettre de protéger l'économie des pulsions politiques nationales. Et donc, lui dit, voilà, il veut en quelque sorte décrire les solutions avancées par les néolibéraux des années 1920 aux années 1990, comme autant de tentatives pour défendre l'économie mondiale contre la démocratie et le nationalisme. Parce que ils ont à la fois ce double problème de la démocratisation et des États-nations, qu'ils n'aiment pas.
Les souverainetés nationales ou souverainetés populaires, en fait.
C'est ça. Ouais. Et donc, dans le livre, il va explorer tout un tas de solutions. Donc, par exemple, avec Hayek et Mises, tu as l'adoption de modèles de fédération internationale, de double gouvernement, qui accorde l'indépendance politique en préservant le règne de la concurrence. Après, t'en as un autre qui veut créer un col universel d'investissement afin de placer le droit hors de portée des États. Le droit, carrément. C'est renoncer à une fonction régalienne essentielle de l'État, malgré tout. T'as aussi des gens qui pensent qu'il faut revenir à des formes d'apartheid ou de vote censitaire. Rob Keux, que tu citais tout à l'heure, était un partisan de l'Afrique du Sud, l'apartheid. T'en as d'autres qui se disent que c'est l'Union Européenne qu'il nous faut. Parce que justement, elle va nous permettre d'accomplir cette mise à l'écart de l'économique par rapport aux États-nations. Et donc, le GATT, puis un peu plus tard, et l'OMC sont des émanations aussi de cette volonté de mettre les choses un petit peu à l'écart. Et donc, alors, c'est un livre qui est vraiment riche, donc là, je m'en tiens à une présentation un peu rapide. Mais il me semble qu'à la fin du livre, il avance 15 points
qui pour lui définissent le consensus minimal de ce qu'il appelle le néolibéralisme de l'école de Genève. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Et le premier point, il va dire qu'il n'y a pas de marché parfait, parce qu'on ne peut pas avoir une connaissance parfaite du marché. Premier point. Deuxième point, le globalisme. Alors ici, il utilise le mot globalisme, pas forcément dans le sens où l'extrême droite l'utilise aujourd'hui, même s'il souligne cet usage nouveau, ou les globistes.
Mondialistes, on
va dire. Ouais, on va dire mondialistes, mais il parle de globalisme. Mais bon, c'est pas un type d'extrême droite.
Non, mais l'extrême droite parle de mondialistes,
c'est ça. Ouais, oui, mais aussi de globistes.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Le globalisme pour lui est supérieur au nationalisme, enfin, pour les néolibéraux. Parce que finalement, seul le capitalisme est internationaliste, le socialisme est toujours nationaliste, et le socialisme est toujours être inefficace économiquement du fait de son nationalisme.
Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, les néolibéraux, ils pensent global. Hein.
Oui.
Toujours.
Toujours.
Et c'est une rationalité globale, et c'est un cadre global, et
c'est pour ça que
une efficacité globale.
Les nationalistes vont souvent se sentir trahis par leurs élites néolibérales, parce qu'ils vont dire, mais ils ne pensent pas à leur pays. Mmh. Effectivement. Mmh. Les élites néolibérales ne pensent pas en termes à l'échelle de la nation. Mmh. Et donc, l'ordre économique mondial, de quoi va-t-il dépendre? Il va dépendre de la protection du droit de propriété, de tout ce qui touche aux biens, aux richesses, ce que Schmitt appelait le dominium, contre les abus du pouvoir des États. Et donc, voilà, il faut protéger l'ordre économique mondial des États. Ensuite, un autre point, quatrième point, c'est que la souveraineté du consommateur est supérieure à la souveraineté nationale.
Donc à celle du citoyen.
Donc à celle du citoyen. Et de ce point de vue-là, la distinction entre le public et le privé va être plus importante que la distinction entre l'étranger et le national.
Mmh. C'est-à-dire, explique ça.
C'est-à-dire, globalement, ici, alors, il met les deux points dans le même truc. C'est-à-dire que ce qui compte, par exemple, si tu as un État qui exerce son droit régalien, le truc, c'est que ce qui va être important, c'est qu'il respecte la propriété, que la propriété soit celle d'un étranger ou celle d'un national.
Ok.
En quelque sorte, l'État ne doit avoir aucun droit sur la propriété privée.
Ok, ça va.
Tu vois ?
Ok.
Qu'elle soit... elle peut appartenir à n'importe qui.
Un milliardaire russe doit être protégé...
C'est ça.
La propriété avant un citoyen français.
Exactement.
Ouais. Si c'est sur le territoire français.
Le bien du propriétaire russe doit être protégé quoi qu'il arrive.
C'est ça.
Okay. Et donc, ce qui implique que le droit mondial aussi...
Ce qui est important, parce qu'en fait, c'est la manière dont effectivement cette idéologie va se couler, d'une certaine manière, dans l'état de droit. Oui. Qui, en fait, vient d'un tout autre projet.
Oui,
en fait,
c'est un parasitage.
Exactement, tu as une espèce d'alien là, d'alien globaliste dans le cadre de l'état de droit.
C'est ça. Mmh. Et donc, ce qui implique que le droit mondial est beaucoup plus souhaitable qu'un État mondial. Mmh. Ça, on l'a vu aussi. Ah oui. Puisqu'il faut protéger et amplifier la concurrence, sans laisser de place aux revendications populaires que pourrait laisser surgir un État mondial. Et donc, de ce point de vue-là, la démocratie sera toujours une menace potentielle pour le fonctionnement de l'ordre du marché. D'accord ? Donc, le peuple n'est pas légitime. La démocratie, c'est les dirigeants. Pour citer... quelqu'un de récemment. Et donc, les dangers de la démocratie, c'est quoi ? C'est essentiellement la revendication de redistribution. Et donc, pour eux, tous les combats nationaux pour l'équité sont nécessairement des sources de problèmes économiques mondiaux.
Oui, bah c'est vrai.
C'est très logique. Très, 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 très logique. Et à partir de là, quelles sont les bonnes lois ? C'est pas les lois qui vont être votées par des parlements.
Non.
C'est des lois qui vont être décidées par des magistrats, par des experts, à partir d'une pratique économique. Et donc, à cet égard, ils n'aiment pas du tout les lois qui sont, justement, parlementaires. La loi, ça va être le fait de l'expert ou du magistrat.
Bien sûr, bah, c'est logique, effectivement.
Ouais, ça s'enchaîne. Hein. Ce qui implique aussi que des gens comme Hayek privilégient ce qu'ils vont appeler l'isonomie à l'autonomie. L'isonomie, c'est la même loi pour tout le monde. L'autonomie, ce sera chaque pays sa loi. Et un Hayek peut tolérer qu'un pays ait ses propres lois tant qu'elles touchent à des choses qui sont relativement peu importantes. Mais dès qu'on touche à l'économie, il faut qu'il y ait une isonomie. C'est-à-dire, tout le monde va respecter la même loi. D'où l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce.
Oui, bah, concurrence non faussée.
Voilà, c'est ça. Non faussée par quoi ? Par des lois nationales.
Bien sûr, ouais.
Et à partir de là,
les règles, elles vont donner une espèce de cadre, mais ça on l'a vu un petit peu. Alors oui, non, j'ai oublié le dixième point, c'est que le droit va garantir une certaine prévisibilité dans une économie qui, par ailleurs, n'est pas prévisible.
Oui, prévisibilité plus qu'efficacité, c'est-à-dire qu'effectivement, tu n'interviens pas directement sur les mécanismes économiques, par contre, tu les rends, tu donnes un milieu globalement prévisible et propre à l'initiative, à la valorisation de capitaux, c'est etc. etc.
Parce que les hommes agissent d'après leur connaissance, et donc il faut leur donner des connaissances. Il ne faut pas que ce soit complètement le chaos.
Donc tu raisonnes en termes de risque, et pas en termes de, tu vois, de planification, etc.
Et donc, les règles, ici, vont être une espèce de cadre pour l'ordre spontané du marché. Voilà. C'est tout bête. Et donc, ici, comme on disait, la connaissance, justement, permise par le droit qui rend les choses prévisibles, va être un paramètre de l'action. Mais dans quel cadre? Essentiellement dans le cadre de l'interdiction. C'est-à-dire que le droit doit être négatif.
C'est ça. C'est jamais un droit A. C'est tu ne touches pas A.
C'est ça.
C'est ça, mais c'est pas des droits politiques.
Oui.
Ouais.
Et donc, de ce point de vue-là, l'intégration du marché doit être négative, c'est-à-dire c'est plutôt une élimination, une atténuation des barrières. Et enfin, le code juridique doit se limiter finalement à garantir les échanges transfrontaliers. Et alors aussi, le 15e point est assez intéressant, c'est que pour eux, cette espèce d'intégration de chaque marché à l'ordre économique mondial n'est pas une création, mais c'est la restauration de quelque chose d'antérieur.
Oui, c'est fondamentalement conservateur.
C'est fondamentalement conservateur.
Tu luttes contre les perturbations, tu luttes contre les innovations perturbantes, intempestives.
Il ne s'agit pas de créer, il s'agit de restaurer.
C'est une pensée fondamentalement conservatrice.
Un ordre ancien. Et l'ordre de l'Empire, en fait. Ce qui fait que certains néo-libéraux vont regretter l'Empire des Habsbourg, l'Empire, tout un tas d'empires, parce que justement, ils disaient ça, c'était quand même pas mal, et pas ces saloperies de démocratie.
Ce qui veut dire aussi au passage, c'est que ce néolibéralisme-là, il est ni démocrate,
non,
ni progressiste.
Non plus.
Il est antidémocrate et antiprogressiste.
Et d'ailleurs, tu vois, là, ça, c'est bien, on arrive à la fin de l'émission, mais j'ai une citation d'Hayek qui correspond tout à fait à ce que tu viens de dire. Il revenait dans les années 80, il a vécu très très vieux cet enfoiré, sur son projet de 1947, et il dit que son objectif en 1947, alors il dit ça dans les années 80, était de ligoter l'Ulysse de l'État démocratique au mât de l'économie mondiale grâce à des structures de gouvernement et de droit.
Il n'a pas si mal réussi.
Ligoter l'Ulysse de l'État démocratique. Ulysse qui est appelé par les sirènes. Les sirènes, ça va être le peuple, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et donc, il faut ligoter au mât de l'économie mondiale. Comme ça, il ne peut plus bouger. Quoi. Il entend les sirènes, mais il est coincé. Et justement, grâce à des structures de gouvernement et de droit. Et donc, là-dessus... alors, la conclusion... Hayek avait soutenu le dictateur. Il y a une petite citation. Si je préfère un dictateur libéral, un gouvernement démocratique manquant de libéralisme... Et l'idée que sur laquelle tu as mis Slobodian, il dit que ce n'est pas le récit d'une victoire des néolibéraux parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il se place en historien à cet égard. Et lui dit que finalement, la plus grande victoire de l'ordo, de ce qu'il appelle l'ordo-globalisme, c'est-à-dire le néolibéralisme de l'école de Genève, c'est le moment où il entre aussi en crise. Et du fait d'une contradiction peut-être interne, c'est-à-dire que Hayek pensait que l'économie était invisible, inconnaissable en son fond, mais il pensait aussi que la réglementation économique devait rester privée, non publique. Et le moment où l'OMC se met en place, c'est finalement le moment où toutes les recettes de l'ordolibéralisme globalisé deviennent publiques. Et où son manque de...
devient discutable.
Devient
un objet politique.
Devient un objet politique. Exactement. Ce qui fait que... à partir du moment où justement tu as Seattle et où tu as une énorme contestation de ça, tout est repolitisé, malgré eux, en quelque sorte. Et ils vont essayer de s'en sortir, et ce passage est vraiment intéressant, en réinvestissant les droits de l'homme, ça on l'a vu un petit peu déjà, mais d'une manière qui est finalement contre les droits humains, puisqu'ils vont les redéfinir comme des droits individuels et non plus comme des droits sociaux et économiques. Et là, pour eux, tout ce qui va être droit humain, ça va être lié au commerce, au droit de propriété. Et ça va être la définition d'une citoyenneté de marché.
Ça n'est qu'une manière de répéter ce qu'ils ont toujours dit.
C'est ça, exactement.
C'est pas une solution, en vrai.
Non, c'est pas une solution. C'est juste du rebranding. clairement, ils essaient de vendre leur soupe sous un nom différent, sachant que c'est la même soupe.
Donc tu veux nous dire que d'après Queen Slobodian, finalement, on pourrait dire qu'un autre monde est possible.
Je sais pas.
Depuis Seattle, on sait que...
C'est... Il veut juste dire que... En fait, c'est quand même un projet qui est largement utopique, qui a réussi à plein de niveaux, mais qui se heurte à énormément d'obstacles. Et en particulier, ce qui est clair, je pense, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça va peut-être être un internationalisme de plus qui va se casser les dents sur un nationalisme, peut-être, je sais pas. Mais bon, là-dessus, il tire pas trop de plans sur la comète, c'est un historien. Donc il se garde bien de dire ce qu'il en sera, puisqu'il nous parle plutôt de ce qui a été,
de ce qui fut.
Mais moi, si ce genre de choses vous intéresse et que vous voulez avoir une histoire de la pensée économique néolibérale au XXe siècle, je pense que c'est quelque chose qui est assez lisible.
Les globalistes de Queen Slobodian aux éditions du Seuil.
Et qui est assez instructif.
D'accord.
Enfin, et qui, ouais, non, c'est un chouette bouquin.
Moi, je peux vous dire ce qui sera maintenant.
Ah bah. Tu es trop fort. Voilà.
On va vous laisser avec Petra Pied de Biche, Rends les sous. Un morceau de 2018 et on vous dit à la prochaine pour la prochaine émission de Jeudi Noir.
Rends les sous, ça c'est un bon slogan.
Travail salarié, c'est la santé, surtout quand on est mal payé. Se tuer au travail, c'est le paradis, rien n'est trop beau pour le boulot. Le travail salarié, c'est la liberté, surtout quand on est surveillé. La hiérarchie, c'est le paradis, les supérieurs sont tellement gentils. Souffrir au travail, c'est tellement beau, quel plaisir d'aller au boulot. Le travail, c'est le paradis, les maladies professionnelles, quel cadeau. Le travail c'est le paradis, les maladies professionnelles quel cadeau. Tu voles, tu pilles, tu amasses, tu vas te coucher. Dans tes rêves c'est la fête, ça continue à ton réveil. Je suis épié, contrôlé, soupçonné, espionné. Dans mes rêves dans mes rêves, tu crèves. Tu voles, tu pilles, tu amasses et tu vas te coucher. Dans tes rêves, c'est la fête, ça continue à ton réveil. Je suis pollué, humilié, violenté, discriminé. Dans mes rêves, je te crève. Dans mes rêves, je te crève. Quand le prolo est tiré, il faut le boire. Presser, casser, broyer, mâcher. La prolo est à genoux, planque les sous. Quand les gosses de prolo sont à terre, y'a vraiment pas de quoi s'en faire. Les prolos morts, c'est des prolos en retard. Les prolos morts, c'est des prolos flemmards. Tu voles, tu pilles, tu amasses et tu vas te coucher. Tes rêves, c'est la fête, ça continue à ton réveil. Je suis épié, contrôlé, soupçonné, espionné. Dans mes rêves, tu crèves. Dans mes rêves, tu crèves. Tu voles, tu pilles, tu amasses et tu vas te coucher. Dans tes rêves, c'est la fête, ça continue à ton réveil. Je suis pollué, humilié, violenté, discriminé. Dans mes rêves, je te crève. Dans mes rêves, je te crève. Je ne travaillerai pas plus vite. Je ne te ferai pas gagner du temps. Impose-moi encore des quotas pour que ma rage augmente d'un cran. Je ne travaillerai pas plus vite, je n'améliorerai pas tes statistiques. Parle-moi de tes sacrifices et je fais tomber ta chemise. Parle-moi de tes bénéfices et je fais tomber ta chemise. Parle-moi
moi de tes sacrifices et je fais tomber ta chemise. Tu voles, tu pilles, tu amasses, tu vas te coucher. Dans tes rêves, c'est la fête, ça continue à ton réveil. Je suis épié, contrôlé, soupçonné, espionné. Dans mes rêves, tu crèves. Dans mes rêves, tu crèves. Tu voles, tu pilles, tu amasses et tu vas te coucher. Dans tes rêves, c'est la fête, ça continue à ton réveil. Je suis épié, humilié, violenté, discriminé. Dans mes rêves, je te crève. Dans mes rêves, je te crève. Dans mes rêves, je te crève.